26 avril 87. 3, 2, 1, 0. Lorsque l'on commence un débat sur l'économie, il s'avère peut-être utile de fixer d'avance un cadre de discussion, quitte à le modifier en fonction des apports et des expériences parfois très différentes ou complémentaires d'autres participantes au débat. Cela revient à dire, en ce qui nous concerne, que nous allons choisir un concept et un point de départ à notre série de débats sur l'économie internationale, qui soit familier ou du moins autant que possible accessible à une très grande majorité de nos auditeurs. Nous avons donc choisi de démarrer cette série par l'analyse des problèmes posés par la maturité des sociétés industrialisées issues des révolutions techno-économiques des années 1910-1930, ou plus généralement des années autour du siècle 1900. Un cycle technologique semble s'étendre depuis son début à son épuisement total sur environ 50-60 années. Cela signifie que les innovations découlant des activités de recherche pure et appliquée sont progressivement assimilées par les marchés, d'abord en tant que nouveautés, ensuite sous forme de produits de masse, le long d'un arc de temps d'environ 25 à 30 ans ou 50 à 60 ans selon les produits, c'est-à-dire une à deux générations au niveau de la vie humaine. Au bout du parcours, ces produits se standardisent et deviennent progressivement obsolètes, c'est-à-dire qu'ils vieillissent beaucoup trop par rapport à l'usage qu'on veut en faire. Les entreprises n'ont donc plus intérêt à les fabriquer car la concurrence se fait insupportable, les profits qu'on tire de leurs ventes s'amenuisent très rapidement jusqu'à disparaître, et parallèlement à la saturation des marchés, les consommateurs se font de plus en plus blasés et avides de nouveautés. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, les réfrigérateurs, les téléviseurs, le téléphone, le lave-linge, encore des objets de désir au début des années 50, nous apparaissent, du moins dans les pays industrialisés, comme des biens de consommation hautement banalisés. Les voitures, une extraordinaire nouveauté au tournant du siècle, font désormais partie du cadre de vie quotidien de la plupart des habitants d'un pays industrialisé quelconque. Les processus de production, eux, vieillissent aussi rapidement que les produits. Les institutions elles-mêmes, aussi bien publiques que privées, s'alourdissent et se bureaucratisent. Parallèlement, les entreprises et les particuliers commencent tôt ou tard à ressentir négativement le poids de ce vieillissement, car la société dans laquelle ils vivent se sclérose et s'immobilise. L'on peut ainsi expliquer la révolte estudiantine de la fin des années 60 en Europe, le fameux mai 68 de Paris entre autres, ou aux USA, dont le slogan était l'imagination au pouvoir. Révolte qui avait constitué peut-être le signe avant-coureur de la puissante réaction des milieux économiques privés et des communautés sociales de notre temps contre le trop d'État du début des années 80. Une réaction qui, entre autres, a amené au pouvoir des gouvernements conservateurs un peu partout dans le monde industrialisé, mais surtout en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne fédérale et en France. Ce sont d'ailleurs ces gouvernements qui ont initié le mouvement de déréglementation de l'économie, la soi-disant deregulation des anglophones, dont il est question depuis quelques années, sous forme de privatisation des activités étatiques, de joint ventures entre entreprises d'État et du secteur privé, de prise de contrôle des sociétés par d'autres sociétés, de concentration des activités économiques, financières, politiques, technologiques et de presse. La situation qui avait amené à lancer cette déréglementation peut se résumer ainsi. Au niveau politique, les développements de l'après-guerre avaient donné naissance à un monde multipolaire, à des centres de décision diversifiés, dont les expressions internationales sont encore aujourd'hui les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et toute une série d'organismes régionaux à caractère supranational, la présence desquels conditionne et à la limite paralyse l'action des plus grandes puissances. Au niveau militaire, l'expansion des zones d'influence respectives dans un monde géographiquement limité avait contraint les grands de ce monde à se réarmer pour défendre des intérêts désormais étendus au globe entier. Le potentiel destructeur des arsenaux militaires modernes est désormais tel qu'il paralyse ses détenteurs eux-mêmes. Au niveau économique, l'internationalisation croissante des échanges commerciaux avait mis chacun en concurrence généralisée avec tout autre pays producteur ou consommateur. Il n'y avait plus et il n'y a plus de créneaux privilégiés. La plupart des produits se ressemblent du point de vue de la qualité, des coûts de fabrication, des prix de vente, des matériaux et des composants et des réseaux de distribution. Le commerce international semble se heurter toujours plus à des obstacles paralysants, à des normes protectionnistes, au réveil du nationalisme, à la import substitution, au manque de liquidité, à la chute du pouvoir d'achat des consommateurs. Le régime d'échange fixe des années 70 aurait rendu presque impossible le commerce international d'une grande partie des produits technologiquement mûrs, tels que les réfrigérateurs, les voitures, etc. Les taux flottants et les dépréciations compétitives des années 1970 à 1980 sont le résultat d'une telle situation. Au niveau financier, la sclérose des marchés des capitaux d'il y a quelques années avait, avec le temps, rendu de plus en plus problématique le financement de nouvelles initiatives et leur accès en bourse. En Europe et au Japon, on pouvait compter sur les doigts d'une main les nouvelles sociétés cotées en bourse, par exemple allemande ou suisse. Au niveau énergétique, la dépendance croissante d'un pétrole surévalué comme source principale d'énergie avait fini par bloquer toute possibilité ultérieure d'expansion ou d'innovation industrielle. Au niveau social, le développement anormal de l'État-providence, garant de la sécurité individuelle du berceau à la tombe, avait réduit à un tel point la capacité des individus, des entreprises et des institutions de prendre des risques que créer une nouvelle entreprise devenait une mission impossible. Les syndicats ensuite, avec ou sans l'aide des gouvernements et du patronat, avaient renforcé chez leurs membres la conviction qu'à chacun devait être garanti ad vitam aeternam un emploi et une rémunération élevée sans égard à la situation économique générale, à la productivité de l'entreprise et au mérite ou au défaut de chacun. Plus les économies étaient développées en termes de volume, d'échanges, de richesses, de sophistication des réseaux de production et de distribution, plus cette paralysie générale était devenue insupportable sur le plan politique, militaire, économique. Il fallait donc changer les règles du jeu. Le sens de la deregulation est là tout entier. Détruire les rigidités préexistantes, redonner la liberté de manœuvre au marché, remettre tout le monde en concurrence avec tout le monde, au moins dans la phase initiale de cette restructuration des rapports de force entre les acteurs économiques et les États. Les changements introduits dans le secteur énergétique et financier furent particulièrement importants, rapides et radicaux. L'innovation devint une règle et une nécessité de survie. Le développement explosif des nouveaux marchés à terme, des taux d'intérêt de change, des indices boursiers et des options, poussa les opérateurs des marchés des capitaux à innover à leur tour, les contraignant à créer de nouvelles formes de financement, à ouvrir les bourses aux nouvelles entreprises, à reprendre le goût du risque, le fameux venture capital, à moderniser leurs organisations, à privilégier la souplesse et la rapidité de décision, toutes choses auxquelles les Européens et en partie les Japonais étaient en général peu habitués. Au niveau social, c'est-à-dire du monde du travail, cette déréglementation, cette frénésie de changement, de rationalisation, de modernisation des machines, des usines, des processus de production, se traduisit par des éliminations massives d'emplois dont témoignent aujourd'hui les statistiques du chômage, particulièrement élevées dans tous les pays industrialisés et encore plus élevées dans les pays en voie de développement. On n'aurait jamais cru, il y a 10-15 ans en arrière, que nos économies puissent tourner à des rythmes assez élevés, avec des taux de chômage moyens d'entre 6 et 12%, voire même 15% dans les principaux pays industrialisés. Encore plus difficile à croire était le phénomène du chômage des jeunes, qui peut atteindre dans certains pays d'Europe et même aux USA des pointes d'entre 40 à 50% du total des jeunes de ces pays, spécialement si ceux-ci ont le malheur d'avoir une peau de couleur. Le phénomène du chômage à ce niveau aussi élevé est d'ailleurs l'indicateur que cette fois-ci, on n'est pas en présence d'une simple crise conjoncturelle, c'est-à-dire une crise due à des événements ponctuels, à des erreurs locales, que l'on peut donc réabsorber dès lors que l'on change quelque chose dans l'économie. On est là en présence d'une crise que l'on dit structurelle, c'est-à-dire une crise de fond de l'économie, dont l'origine est peut-être due à la maturité, au vieillissement des structures techno-économiques héritées des découvertes du début du siècle dont il était question au début de cette transmission. Pour mieux comprendre ce qui se passe et se situer par rapport à cette crise, il faudrait peut-être pourvoir une description simplifiée d'un cycle économique de longue durée avec ses phases de croissance, décroissance, stagnation, telles qu'on les a observées depuis environ 200 ans et plus loin dans l'histoire.
Toujours la crise. Oui, c'est toujours la crise. 15 ans après les chocs pétroliers auxquels, à l'époque, les experts faisaient porter le chapeau, depuis le prix du pétrole est bien retombé, la crise, elle, s'est aggravée. Catastrophe, le dollar monte. Catastrophe, le dollar descend. Vous n'y comprenez rien ? Ce n'est pas un hasard. Radiozone vous propose une série d'émissions sur la crise et l'économie. Pas de conférences d'experts ou de soi-disant experts, mais des entretiens entre 3 ou 4 personnes, simples citoyens, qui aimeraient chercher à comprendre un peu mieux ce sujet capital. L'économie, l'organisation même de notre vie en société, est peut-être bien un sujet trop important pour laisser entre les mains d'une petite minorité. Toujours la crise, toutes les semaines à la même heure sur Radiozone, 93,8 MHz. Une demi-douzaine d'émissions sur l'économie et la crise.